Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Donc on est très heureux de voir notre amphithéâtre rempli comme tous les premiers mardis du mois. On est heureux d'accueillir également les personnes qui nous suivent sur YouTube en direct et en différé. Et je commence par donner la parole à notre directeur Patrick Peter qui va nous donner quelques mots de bienvenue.
Voilà, merci Guillaume. Alors effectivement, je voulais juste dire un tout petit mot rapide, hein. Je ne vais pas vous embêter longtemps, c'était juste d'abord pour vous remercier d'être là encore une fois si nombreux, remercier les organisateurs pour cet événement mensuel qui vraiment participe de la vie, en fait même de la vie scientifique du laboratoire, pas exclusivement de diffusion, mais la vie scientifique ça implique la diffusion et ça permet des échanges et donc c'est quelque chose de très bien, donc je suis vraiment ravi. Et enfin, remercier Alain d'avoir bien voulu nous donner cet exposé sur une thématique que je ne connais pas du tout moi-même parce que ça n'est pas du tout mon domaine. Et je suis ravi de découvrir. J'ignorais jusqu'à il y a quelques heures qu'il y eut des comètes extrasolaires. Je savais qu'il y avait des planètes, mais j'ignorais qu'il y eut des comètes. Donc j'attends cet exposé avec une grande impatience. Voilà. Merci, en tout cas.
Merci, Patrick. Alors juste avant de présenter Alain, je vais vous donner quelques mots pour vous annoncer les prochaines conférences. Donc la prochaine aura lieu le mois prochain, donc le mardi 3 décembre 2024. Les réservations, c'est à partir de demain matin. Et donc cette conférence, elle sera organisée à l'occasion du colloque international de l'IAP. Tous les ans, notre institut organise une conférence internationale qui est réservée aux spécialistes, aux scientifiques, qui se déroule ici dans cet amphithéâtre. Mais à l'occasion de cette conférence scientifique, nous organiserons la conférence publique, donc qui sera ouverte à tous, comme tous les premiers mardis du mois. Et elle sera présentée par notre collègue de l'Observatoire de Paris, Paola Di Matteo. Elle aura pour titre « Les galaxies, un voyage long d'un siècle », parce que justement, en décembre prochain, nous célébrerons les 100 ans de la découverte par l'astronome américain Edwin Hubble du fait que les galaxies sont en dehors de notre galaxie. Il y a plus de 100 ans, on ne savait pas bien, on connaissait des nébuleuses spirales, on ne savait pas bien de quoi il s'agissait. Et depuis 100 ans, on sait que ce sont des galaxies comme la nôtre, comme la Voie lactée, mais au-delà de notre galaxie. Donc c'est vraiment un résultat extrêmement important pour l'histoire de l'astrophysique, pour notre compréhension de l'univers. Et donc notre collègue Paola Di Matteo nous présentera une conférence sur ce sujet, la découverte historique, et puis depuis 100 ans, toutes les découvertes qui ont été faites jusqu'à maintenant, jusqu'aux travaux les plus récents qui justement seront discutés dans cet amphithéâtre à l'occasion de cette conférence scientifique. Et nous débuterons l'année 2025 par une conférence de nouveau d'un collègue de l'Observatoire de Paris, James Lequeux, qui nous présentera une conférence intitulée « Nicolas-Louis de Lacaille, découvreur du ciel austral ». Et puis, en exclusivité, je vous annonce que la conférence de février, le 4 février prochain, sera présentée justement par Patrick Peter. Et donc le titre n'est pas encore complètement définitif, mais ça parlera de l'univers dans tous ses états quantiques. Voilà. Et la suite de notre programmation, très bientôt annoncée sur notre site web. Et donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Alain Cavelier des Étangs. Alors Alain est directeur de recherche ici au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors Alain est un collègue depuis plusieurs décennies, un ami même, je peux le dire, un très bon ami. Alors ce n'est pas pour ça qu'il est invité, pas juste pour ça qu'il est invité. Tu es invité également donc, parce que tu travailles et tu as travaillé sur le système Beta Pictoris, un système dont tu vas beaucoup parler ce soir. Tu as fait ta thèse sur ce sujet, notamment ici à l'Institut d'astrophysique de Paris, que tu as soutenu ici même dans cet amphithéâtre. Voilà, il s'est passé plein de choses dans cet amphithéâtre. Tu as travaillé sur les disques et circumstellaires, et donc notamment sur les exocomètes dont tu vas nous parler ce soir, une thématique qui est née dans cette maison à l'Institut d'astrophysique de Paris, ou même plus précisément dans un avion entre l'IAP et le Chili, mais bon, tu vas en parler dans quelques instants. Tu as également joué un rôle majeur dans l'étude des atmosphères des exoplanètes, en contribuant aux résultats pionniers obtenus ici, de nouveau à l'Institut d'astrophysique de Paris, sous la direction d'Alfred Vidal-Majar, participé également à la découverte importante de l'évaporation des atmosphères des planètes extrasolaires, un résultat qui a eu beaucoup d'implications sur ce que l'on comprend maintenant des atmosphères des exoplanètes, comment les exoplanètes évoluent. Dans tous ces travaux, donc des observations, de la théorie, tu as également obtenu des résultats sur la diffusion de la lumière dans les atmosphères des exoplanètes. On connaît ça sur Terre, puisqu'on sait que la couleur bleue du ciel sur Terre est due à la diffusion de la lumière du Soleil dans notre atmosphère. Donc, tu as étendu ça aux exoplanètes. Tu as également été président de la commission exoplanète de l'Union astronomique internationale. Tu enseignes la physique et l'astrophysique à l'École polytechnique. Et puis, tu as également écrit des ouvrages, notamment « Le ciel et les étoiles sont complexes », qui a été primé, qui a obtenu une récompense. Et puis, tu as été directeur de la collection de l'encyclopédie « Astronomie du ciel et de l'espace ». Non, le titre précis, « Astronomie et espace », je crois. Et voilà, donc toutes ces activités. Et ce soir, donc, tu nous présentes une conférence intitulée « Exocomètes, 40 années de découverte ». Et donc à la fin, je donnerai la parole à l'amphithéâtre et aux personnes sur le chat, sur YouTube. N'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions et j'essaierai de te les retranscrire à la fin. Voilà, je t'en prie.
Merci. Bonsoir à tous. On entend bien, confirmation que le son est bon. Très bien. Eh bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de exocomètes. Alors, c'est peut-être un terme un peu obscur. Vous avez déjà entendu parler de comètes. Il suffit d'avoir ouvert quelques journaux il y a quelques semaines et vous avez entendu parler de comètes, il me semble. Vous avez déjà entendu parler d'exoplanètes, de planètes qui tournent autour d'étoiles différentes du Soleil, dans les systèmes extrasolaires. Et ce soir, je vais mélanger les deux et je vais vous parler des exocomètes, des comètes qui tournent autour d'étoiles différentes du Soleil. Et j'ai donné un sous-titre à cette conférence qui est « 40 années de découverte » parce que justement, ça fait 40 années, je vais vous le montrer ce soir, que l'on observe des exocomètes. Et donc, on a découvert, c'est assez peu connu, mais on a découvert des exocomètes avant de découvrir des exoplanètes. Et cette découverte a été faite ici, à l'Institut d'astrophysique, alors que je n'étais pas né dans le monde du monde de l'astronomie, mais ça a été fait ici. Et je vais vous présenter justement toute cette histoire jusqu'au dernier résultat que nous avons obtenu récemment sur l'observation de ces comètes extrasolaires ou exocomètes. Alors d'abord, évidemment, il faut définir qu'est-ce qu'on entend par comète. Et je me suis dit, le meilleur moyen pour savoir comment on va définir ces objets comètes, c'est d'aller voir dans les définitions des dictionnaires. Donc j'ai trouvé deux définitions, vous allez voir, assez différentes, mais qui donnent un bon panorama de ce qu'est une comète. La première définition, c'est celle du dictionnaire de l'Académie, où il est dit qu'une comète, c'est un astre portant une chevelure lumineuse qui se meut autour du Soleil. Et que ça vient du latin cometa, cometes, astre chevelu, la comète, en fait, c'est la chevelure. Et en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la queue de la comète, comme sur cette image. Donc on voit une comète comme une queue, c'est ce qui vous a été présenté il y a quelques semaines, qu'on a dit on va voir la comète du siècle. Ce que vous alliez voir, c'était la queue de la comète, en fait. Donc c'est la première chose, c'est ce que l'on observe d'une comète, cette queue. Et si on va chercher les définitions, j'ai trouvé une deuxième définition, peut-être plus technique, plus proche d'une définition scientifique, qui est celle donnée à l'Observatoire de Paris. Et les comètes sont des petits corps du système solaire qui gravitent autour du Soleil sur des orbites elliptiques. Et là, vous voyez, on a presque l'impression qu'il s'agit d'objets différents, en fait. Et là, on parle non pas de la chevelure, mais du petit corps glacé, quelques kilomètres de diamètre, qui s'évapore, produit une queue, une chevelure. Et c'est ce petit corps qui intéresse les astronomes, parce qu'au fond, si on résume les deux définitions, la chevelure, la queue, et le petit corps, le noyau, qu'on appelle le noyau cométaire, eh bien, c'est la chevelure, c'est ce qui est observé. La plupart du temps, il y a quelques exceptions avec les missions spatiales, je vais vous montrer quelques images, mais l'essentiel des observations des comètes, c'est l'observation de la queue de la comète. Et ce qui nous intéresse, nous, scientifiques, c'est l'origine de cette queue, ce petit noyau glacé qui s'évapore, parce que c'est lui qui porte énormément d'informations sur l'histoire du système solaire pour les comètes du système solaire ou des systèmes planétaires pour les systèmes extrasolaires. Alors, je n'ai pas beaucoup de belles images à vous montrer de ces comètes extrasolaires, parce qu'évidemment, elles sont très loin, mais pour savoir un peu mieux, j'ai choisi de vous montrer avec un panorama assez rapide, je vais survoler les comètes, vous montrer ce que l'on voit quand on observe une comète. Et je vais commencer, comme la définition, par ce qu'on voit quand on observe la queue de la comète, ou la chevelure, mais ce qu'on appelle, nous, quotidiennement, la queue. Les premières observations ont été faites, alors bien avant celle-ci, mais celle-ci, elle a l'avantage, c'est que c'est dans un chronique anglo-saxonne, la comète de 729, il y avait marqué le mot « cometa ». Donc, c'est une des premières fois où on voit ce terme utilisé pour l'observation d'une comète. Et et il y a des grandes comètes historiques, alors celle de 1577, qui a été observée, entre autres, par Tycho Brahe. Et ça a eu un impact très fort sur Tycho Brahe, qui a vu cette comète dans le ciel et qui est, évidemment, enfin, on peut pas ne... On a une très grande comète, on ne peut pas ne rester indifférent à ça. Et Tycho Brahe a été bouleversé, enfin, ça a fait un impact assez fort sur Tycho Brahe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'image qu'il a tracée de cette comète avec ses orbites dans un modèle qui mélange des objets qui tournent autour de la Terre. Et vous voyez, il y a la comète qui est dessinée, le petit point... ici, là, donc on voit avec cette queue qui est dessinée par Tycho Brahe, et cette comète donc est en orbite autour du Soleil, et le Soleil lui-même est en orbite autour de la Terre dans ce modèle un peu mixte héliocentrique-géocentrique. Et puis il y a d'autres comètes historiques, par exemple la grande comète de 1861, et évidemment parmi les comètes historiques, vous connaissez tous la comète de Halley, avec, par exemple, l'observation qui a été faite lors du passage en 1066, avec cette tapisserie de Bayeux, où on voit la comète qui était pressentie comme liée au passage avec les conquêtes de Guillaume le Conquérant, et puis d'autres passages de cette comète qui est périodique. C'est la première comète pour laquelle on a pu estimer une période, enfin, c'est Halley qui a estimé la période, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle la comète de Halley. C'est lui qui a dit « Ah, on l'a vu cet objet plusieurs fois, on le voit tous les 76 ans, c'est peut-être le même objet qui revient périodiquement tous les 76 ans. » Et donc une observation en 1910 ici. Il y avait aussi une très grande comète en 1910 qui était une autre comète. Et puis 1910 plus 76 ans, ça fait 1986. Alors peut-être certains d'entre vous l'ont vu en 1986. Elle n'était pas très très visible. Il y a des passages où la Terre est plus proche au moment de son passage. Il se trouve qu'en 1986, elle était plutôt de l'autre côté du Soleil quand elle était au plus proche du Soleil. Mais il y a eu d'autres très 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 belles comètes depuis. Si certains s'en souviennent, moi personnellement, c'est la comète qui m'a le plus vraiment bouleversé, c'est la comète de Yakutake, qui est peut-être peu connue parce qu'elle n'a été visible que pendant quelques jours, mais elle est passée extrêmement proche de la Terre, et ça faisait une queue qu'on voyait en pleine nuit, hein, vraiment, là, pour le coup, ce n'était pas au coucher du soleil, c'est en pleine nuit, et ça couvrait 90 degrés sur le ciel. C'était absolument magnifique. Ça a duré quelques jours, et pour ceux qui ont raté Yakutake, ben, en 1997, il y avait la comète de Halley-Bopp, que d'autres ont vu, qui est resté plus longtemps et qui est resté dans les mémoires de ceux qui ont eu la chance de la voir. Or, depuis, il y a aussi d'autres comètes, des grandes comètes qui ont été observées il y a quelques années ou quelques dizaines d'années. Lovejoy en 2011, Holmes en 2007 et Macnaught en 2007. Peut-être pas entendu parler parce que ces comètes étaient visibles essentiellement de l'hémisphère sud, mais il y a aussi des comètes qui sont visibles de l'hémisphère nord. Par exemple, NEOWISE, qui est passé en 2020, c'était la dernière, avant celle qui vient de passer, qui était visible à l'œil nu. Et donc, vous avez ici deux images, et j'aime beaucoup cette image qui a été prise le 18 juillet 2020 à Fécamp, vous voyez, avec le phare et la petite comète qui circule ici, donc qui était visible à l'œil nu. Hein. Et puis, vous avez tous entendu parler de la comète du siècle, mais que personne n'a vraiment vu parce qu'il ne faisait pas beau et puis que finalement, elle n'était peut-être pas celle du siècle. En tout cas, j'espère qu'il y en aura d'encore plus belles d'ici la fin de ce siècle. Voilà, des images. J'ai des collègues qui prétendent l'avoir vue à l'œil nu. Moi, personnellement, j'ai quelques doutes, mais aux jumelles, c'était nettement visible. Et puis, voilà, quelques images. Vous voyez, cette image au centre a été prise par une photographe amateur au Mureau avec un téléphone portable, et vous voyez qu'on peut deviner la comète au centre de cette image. C'était peut-être pas la comète du siècle, mais c'était pour l'occasion pour beaucoup d'entre vous d'avoir peut-être la chance de voir un objet de ce type. Voilà pour le survol des comètes récente historique que l'on a pu avoir la chance, que vous avez pu avoir la chance de voir. Maintenant, on va essayer de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que ces objets, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elles s'évaporent, pourquoi elles font des queues, etc. En fait, elles sont sur des orbites très excentriques, comme on l'a vu sur la définition, et elles s'approchent du Soleil, et à ce moment-là, le noyau, le corps rocheux, s'évapore, produit du gaz, des poussières, qui sont projetées dans l'espace et poussées par la pression de radiation. Alors souvent on dit le vent solaire, en réalité ce n'est pas le vent solaire, les particules du vent du Soleil qui existent, c'est essentiellement la pression lumineuse. Donc c'est les photons, la lumière, qui pousse le gaz et les poussières et qui font cette queue. Alors je vais remontrer, ça c'est bien Kutake, et ce film montre le Soleil observé par Soho, un observatoire avec un coronographe. Donc vous voyez, le cercle au centre, c'est le Soleil. Il y a un cache pour nous cacher le Soleil, pour ne pas être ébloui. Et on voit très bien que cette comète, elle passe à proximité du Soleil. Vous voyez, il y a quelques rayons solaires du Soleil, vraiment très très proches, tout au moins une distance projetée. Et encore cette autre animation, la comète NIT en 2003, observée par l'observatoire Soho. Et pareil, regardez ce passage, c'est absolument magnifique. On voit que l'orientation de la queue suit quasiment à l'opposé, mais pas exactement, mais quasiment à l'opposé de la direction du Soleil, qui est la preuve que c'est bien le Soleil qui pousse cette queue vers l'extérieur. Et on voit aussi que c'est une orbite excentrique, c'est-à-dire que cette comète s'approche du Soleil et la queue se forme au moment de l'approche du Soleil. J'ai deux petites animations très, très simplissimes pour montrer ça. Une orbite excentrique et au fond, ce qui se passe, c'est que quand le petit corps glacé franchit une limite de l'évaporation, vous voyez, qui est tracée par ce cercle rouge, quand la comète passe cette limite, la température est suffisante pour que les glaces se vaporisent et forme la queue. Donc la queue se forme à l'intérieur d'une certaine limite. Évidemment, plus on est proche du Soleil, plus il y a d'évaporation. Et tout ça se passe sur une orbite excentrique. Et sur cette animation, ce qui est important de voir, c'est que la comète passe l'essentiel de son temps à très grande distance et elle s'approche du Soleil ou de son étoile pendant très peu de temps, elle passe très peu de temps, elle va très très vite, c'est la loi des airs, la loi de Kepler, qui vous dit qu'un objet qui est très proche du Soleil va très vite, un objet qui est loin du Soleil va lentement, et donc l'essentiel du temps, c'est à très très grande distance, et ça passe très très rapidement, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, à proximité du Soleil, pour s'évaporer, et ça s'évapore, c'est visible à ce moment-là. Cette information, pour nous, est importante, parce que, et c'est la raison pour laquelle ces comètes ont un intérêt scientifique majeur, c'est que comme ces objets passent essentiellement leur temps loin du Soleil, où ils sont congelés, finalement, on garde bien au frais toute l'information. Et quand ça vient, si on a la chance de venir chez nous, on peut l'observer. Et ces objets peuvent passer parfois des dizaines de milliers d'années, des millions d'années, des milliards d'années loin du Soleil avant de venir nous visiter. Et donc, ils ont gardé la trace de ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années au moment de la formation du Soleil. Cette information a été codée sur ces petits corps glacés au congélateur et ils viennent nous rendre visite, ça s'évapore et là, on peut l'observer et prendre l'information qui nous intéresse. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit que les comètes, c'est les fossiles de la formation du système solaire et apporte donc des informations capitales. Là, jusqu'alors, je vous ai parlé des queues de comètes, ce qu'on observe. Je vous l'ai bien dit, c'est comme ça qu'on fait la différence entre un astéroïde et une comète. Pour dire c'est un astéroïde ou une comète, un astéroïde, c'est un petit corps, quelques kilomètres, quelques dizaines, centaines de kilomètres, mais qui ne s'évapore pas. Une comète, c'est la même chose, sauf que ça s'évapore sur une orbite elliptique quand ça s'approche du Soleil. Maintenant, voyons ce petit corps. Alors, on a déduit pendant très très longtemps, les informations, la nature de ce petit corps, sa taille, sa composition, etc., à partir de l'observation de la queue qui va porter des informations. Mais depuis quelques temps, depuis quelques dizaines d'années, on a maintenant des observations de ces noyaux cométaires avec les sondes spatiales. Alors, ça c'est une image. La première, c'est une image de la comète Churyumov-Gerasimenko, du nom des deux observateurs ukrainiens qui l'avaient découverte. Et comme le nom est un peu complexe à prononcer, souvent on l'appelle la comète Chury, et qui a été visitée par la sonde Rosetta, et même sur laquelle l'ESA a mis un atterrisseur. Et donc il y a la sonde Phileas qui a atterri sur le noyau de cette comète. Et je vais vous montrer dans quelques instants des images prises par la sonde Phileas. Une image de la sonde Rosetta, mais la première image que nous ayons d'un noyau cométaire, donc d'un objet de quelques kilomètres, c'est justement au moment de la passage de la comète de Halley en 1986. Et je me souviens encore, on était devant notre poste de télévision. Je me souviens de. Il y avait des émissions en direct pour tracer le passage de la comète où il y a les sondes Vega et Giotto de l'Agence spatiale européenne qui devaient s'approcher du noyau et ça durait évidemment. Elle s'approche, hop, hop, elle prend une image et c'est fini. Et je me souviens encore, j'étais dans mon poste de télévision et Hubert Reeve qui était là. Qui faisait les émissions en télévision, comme il l'a fait pendant très très longtemps, il était là, puis il était sur son siège en train de dire « Mais est-ce qu'on a des informations ?» Enfin, il voulait en savoir plus sur ce qui allait se passer. En réalité, ce n'est pas le soir même qu'on a les informations, ça demande des années d'analyse des données qui ont été collectées à ce passage-là, mais ça a permis de faire des images comme celle-ci, vous voyez, donc ça c'est le premier survol d'un noyau cométaire, avec quelques images, l'image finale c'est celle-ci, donc la première image historique d'un noyau cométaire. Depuis, on a eu d'autres missions spatiales. Vous voyez ces comètes Hartley, Wild, etc., pour lesquelles on a fait des images avec des sondes spatiales. Et vous voyez la taille. Hein, alors la comète en bas, la comète de Hartley, on a donné la taille en miles, parce que c'est les Américains, évidemment, donc ce n'est pas en kilomètres. Mais vous voyez, c'est des objets de quelques kilomètres hein, qu'il faut aller voir sur place si on veut pouvoir en faire une image. Et puis, les plus belles images sont évidemment celles obtenues de la sonde Rosetta, qui a fait des images magnifiques de la comète Chury. Vous voyez, donc, on voit les jets sur l'image en haut à gauche. Et cette comète, ce n'est pas un objet rond, en fait, comme c'est moins de 500 km, c'est complètement difforme. Ça, c'est la forme plutôt d'une cacahuète, et probablement liée à l'histoire de la fusion de deux corps plus petits qui se sont attachés l'un sur l'autre. Et puis, on a même ces images du noyau prises avec la sonde Phileas. Et vous voyez l'image de gauche, c'est un petit film où on voit un peu de la neige qui tombe. Alors, en fait, cette image, je crois que c'est un mélange de rayons cosmiques qui font que l'image est un peu brouillée, comme une télévision cathodique des années 60. Et effectivement, des particules qui tombe à la surface parce qu'il y a de la neige, enfin il y a plein de phénomènes de précipitation de particules à la surface. Et à droite, vous avez une image un peu recomposée à très haute résolution. Là, c'est vraiment une image d'une falaise à la surface d'un noyau cométaire, ce qui est absolument incroyable. Enfin, vous voyez les progrès entre 1980, même 1980, on n'avait pas la moindre image. Et puis voilà, 2020, on a des images absolument fabuleuses des noyaux cométaires. Alors maintenant, ça c'était une introduction sur les comètes du système solaire. On aimerait bien en savoir plus sur les exocomètes, les comètes qui tournent autour d'étoiles différentes du Soleil. Comment on va pouvoir les observer et pourquoi les observer aussi ? Après tout, c'est que des petits corps, quelques kilomètres. Ça n'a rien à voir la taille des planètes qu'on observe, que la table des planètes qui ressemblent à la Terre, par exemple, dont on rêve d'observer des molécules complexes dans leur atmosphère ou des choses comme ça. Pourquoi aller voir des petits corps de quelques kilomètres ? Eh bien, je prétends que ces petits corps sont aussi intéressants, aussi importants que les plus gros corps comme les planètes. Au fond, on fait beaucoup d'histoires, enfin c'est normal, on fait beaucoup d'histoires pour les exoplanètes, mais je pense que l'observation des exocomètes, des exoastéroïdes, du gaz, des poussières dans les systèmes planétaires, c'est aussi important que l'observation des planètes. Parce que finalement, c'est un membre de... les petits corps, les comètes, sont un membre à part entière d'un système planétaire. Un système planétaire, ce n'est pas uniquement une étoile, une planète. Ce sont d'ensembles de corps de tailles très différentes, des petits grains de poussière, des astéroïdes, des comètes, des planètes. Et tous ces corps interagissent les uns avec les autres. Et c'est ça qui constitue un vrai système planétaire. En fait, une étoile, une planète, ce n'est pas un système planétaire, c'est une étoile, une planète. Une étoile, une planète, des astéroïdes, des comètes, des poussières, du gaz, ça c'est un vrai système planétaire. Et donc, pour nous, c'est important de comprendre ces petits corps. Quelques exemples de choses qu'on aimerait vraiment bien comprendre dans ces corps, c'est d'abord que c'est parce que ce sont des briques élémentaires. En fait, c'est le reste de ce qui a formé les planètes. C'est un peu comme si vous construisez une cathédrale, et puis pour l'archéologue qui voit la cathédrale, il peut étudier comment ils ont fait, etc. Mais on peut aller voir les restes de briques qui ont été utilisés pour construire la cathédrale et se dire « Ah oui, tiens, ils ont fait comme ça, je vois ce petit caillou, cette petite brique. » On fait la même chose pour les corps du système planétaire. Et à la dernière diapositive, je vous montrerai aussi que ces comètes peuvent être le résultat de la fragmentation de corps plus gros. Donc en fait, ils sont partie prenante de tous les processus qui ont formé les planètes, les objets les plus massifs, dans les systèmes planétaires. Ainsi, ces comètes sont très importantes parce qu'elles contribuent à l'échange de matériel au sein du système planétaire. Sur Terre, il y a de l'eau, un peu d'eau, pas beaucoup, en fait. La Terre, c'est une planète sèche, hein, il n'y a quasiment pas d'eau, en fait. Hein. Il n'y a pas 75% d'eau sur Terre. Hein. Il y a juste quelques kilomètres, une petite couche de quelques kilomètres sur une planète qui en fait 6400 kilomètres de rayon. Donc, en fait, il n'y a presque pas d'eau sur Terre. Mais le peu d'eau qu'il y a sur Terre vient d'une source extérieure. Ça peut être des astéroïdes riches en eau, mais ça peut être aussi des comètes. Et il y a des scénarios d'apport de l'eau sur Terre avec des comètes parce qu'on sait que les comètes contribuent, ces petits corps qui sont sur des orbites très, très elliptiques, contribuent à apporter du matériel d'une zone du système solaire à une autre zone. Et puis, c'est comme un corps humain. Un corps humain, ce n'est pas juste un cerveau et un cœur ou juste des poumons ou juste des bras, des jambes. Ce sont des membres, des organes qui interagissent les uns avec les autres et c'est ça qui constitue un corps humain. Ben, pour un système planétaire, c'est la même chose. Un système planétaire, ce n'est pas juste une étoile, une planète. Ce sont des astéroïdes, petits corps, et gaz, poussière, planètes, qui interagissent les uns avec les autres et qui constituent ce corps vivant qui est un système planétaire. Alors maintenant qu'on sait, ça serait vraiment bien d'en savoir plus, comment on va les détecter? Alors c'est un vrai challenge. Ce que je vous ai dit, les noyaux cométaires font quelques kilomètres. Alors évidemment, il est impossible d'observer directement ces noyaux cométaires. Vous avez vu, dans le système solaire, on ne le fait que depuis 1986 parce qu'on a été capable d'envoyer des sondes. Donc, dans les systèmes extrasolaires, il ne sera pas possible d'observer ces noyaux cométaires. Donc, on va utiliser des techniques un peu plus sûres, de détection indirecte. Une comète, je vous rappelle, c'est un petit corps qui s'évapore, qui produit donc une queue. Et donc ces petits corps peuvent être détectés quand ils s'évaporent et qu'ils produisent des queues. Et donc, on passe du problème de la détection d'un objet de quelques kilomètres au problème de la détection d'un objet qui fait plusieurs millions de kilomètres, la queue d'une comète. Alors c'est beaucoup plus ténu, ça va être plus difficile, mais c'est très grand, et vous allez le voir, ça va être un élément considérable pour pouvoir avoir la chance de pouvoir le détecter. Et pour le détecter, on va utiliser les mêmes techniques que les techniques qu'on utilise pour les planètes extrasolaires, c'est-à-dire qu'on va utiliser le passage de ces objets devant leur étoile, pour que la lumière de l'étoile qui nous parvienne ait traversé la comète, et cette lumière, quand on l'analyse, elle porte la signature d'avoir traversé la queue de la comète. Donc c'est la technique du transit, c'est ce qu'on fait pour détecter des planètes ou caractériser leur atmosphère, comme Guillaume l'a rappelé, par exemple, détecter l'évaporation des atmosphères d'exoplanètes. On l'a fait en observant des transits, le passage de la planète devant son étoile, ben là, on va observer le passage de la comète devant son étoile. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je vais en préciser un peu mieux. En fait, la queue de la comète, elle a deux composantes. Et vous allez voir, pour ce soir, c'est extrêmement important. Elle a une composante de gaz et une composante de poussière. Et on le voit très bien sur cette image de la comète Halley-Bopp, où vous voyez la queue de gaz bleu qui est très très fine, directement orientée à la direction opposée à la direction du Soleil, et une queue de poussière qui est sur cette image plus blanche. Donc il y a vraiment deux queues, deux composantes des queues de poussière, du gaz, de la queue des comètes, du gaz et des poussières. Alors pour le gaz, la technique qu'on va utiliser, c'est la technique de la spectroscopie. On va décomposer la lumière pour voir les signatures du gaz, parce qu'on sait que le gaz a des raies d'absorption ou d'émission, a des longueurs d'onde particulières, a des couleurs particulières. Donc on va décomposer la lumière dans plusieurs couleurs, plusieurs longueurs d'onde, pour voir à quel endroit il y a du gaz et voir sa signature au moment du transit. Je vais vous donner des exemples. Et il y a une autre technique, c'est la photométrie. Cette fois-ci, on ne va pas faire la spectro, on ne va pas décomposer, on va juste mesurer la lumière qui nous parvient de l'étoile. Et comme les poussières, ce sont des petits grains, des petites particules, donc qui ne cachent pas beaucoup de lumière, mais si on a beaucoup, ça va quand même diminuer la lumière de l'étoile. Et c'est cette diminution de la lumière de l'étoile, au moment où elle passe devant, qui va permettre de caractériser la présence d'une queue de poussière cométaire. D'accord ? Donc, deux techniques pour voir deux composantes de ces queues de comètes extrasolaires. Et enfin, avant, il va falloir trouver des cibles, des étoiles, pour observer ces comètes. Et on a une cible favorite, mais absolument extraordinaire, qui s'appelle Beta Pictoris. Alors, je pourrais vous parler pendant des jours et des jours de Beta Pictoris, mais je vais vous en parler juste une diapositive pour vous présenter cet astre absolument incroyable. Alors, en fait, Beta Pictoris, c'est une étoile visible dans l'hémisphère sud qui a l'air tout à fait banale. Jusqu'en 1984, on croyait que c'était une étoile tout à fait ordinaire. Alors, c'est une étoile un peu plus grosse que le Soleil, à 63 années-lumière, vous voyez, visible à l'œil nu, pour ceux qui voient l'échelle de magnitude, 3,8, 85, donc visible à l'œil nu, pas très très lumineuse, mais quand même visible à l'œil nu. Des étoiles comme ça, il y en a quand même beaucoup, hein, plusieurs milliers. C'est une étoile très jeune, 21 millions d'années, enfin 21 plus ou moins 1 ou 2 millions d'années. Bon, ça c'est déjà intéressant, mais ceci dit, des étoiles qui ont 21 millions d'années, on en connaît quand même un grand nombre aussi, hein. C'est pas extraordinaire. Plus intéressant, c'est une étoile qui a un disque circumstellaire, donc de poussière autour, de gaz, on va voir tout de suite, et il est vu exactement par la tranche. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour de l'étoile passe entre nous et l'étoile. Son angle d'orientation est parfait. Alors ça, c'est déjà moins courant, mais ce n'est pas non plus extraordinaire, c'est comme ça qu'on détecte les transits d'exoplanètes. Donc ça arrive, pas très souvent, mais suffisamment souvent pour qu'on détecte plusieurs milliers d'exoplanètes par des planètes qui passent devant leur étoile. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que vous avez les trois d'un seul coup. D'avoir un objet qui soit jeune, proche, vu exactement par la tranche, avec ces trois-là, en fait, on n'avait aucune chance d'avoir cet objet dans notre environnement solaire. C'était improbable. Si on avait fait un pari, est-ce qu'on peut trouver une étoile qui a toutes ces propriétés-là, sans le savoir à l'avance, on aurait dit... Non, il n'y a aucune chance, c'est trop improbable d'avoir ces trois propriétés qui sont chacune pas très probables, mais les trois à la fois, c'est impossible. Eh bien non, on a gagné à la loterie de l'astronomie. On a une étoile qui a toutes ces trois propriétés. Et donc, on va pouvoir en faire l'observation. Et par exemple, on a fait des observations, on a montré que c'est un système planétaire jeune avec une planète. Et là, je vous montre une animation d'image qui a été faite par l'équipe d'Anne-Marie Lagrange qui a découvert cette planète, qui tourne autour de Beta Pictoris. Donc c'est une étoile avec un système planétaire, enfin un disque vu par la tranche, et une planète qui tourne autour. Donc une étoile extrêmement intéressante, et ça va être notre cible favorite pour tout ce que je vais vous montrer dès maintenant. Alors on va commencer, vous voyez, je vous ai dit, on a les observations spectroscopie pour le gaz, observations en photométrie pour la poussière. Bon, on va commencer par les détections historiques, par le gaz observé en spectroscopie. Et là, j'ai une anecdote à vous raconter qui est C'est pour ça que j'ai mis 40 ans, observé depuis 40 ans. Il s'est passé un truc extraordinaire en 1984, exactement le 17 octobre 1984. Le 17 octobre 1984, Smith et Terry, deux astronomes américains, découvraient le disque circumstellaire autour de Beta Pictoris, donc le disque qu'on voit avec un cache pour cacher l'étoile, puis on voyait juste comme les anneaux de Saturne, en quelque sorte. Et ces astronomes ont publié ces résultats, et ça a fait la une de plein de journaux à l'époque, entre autres le Herald Tribune, un journal qui était publié aux États-Unis, et que, par chance, mes collègues, Alfred Vidal-Majar et Roger Ferlet ont trouvé dans l'avion qui les menait au Chili, justement ce jour-là, le 17 octobre 1984, ils ont pris l'avion pour aller faire des observations au Chili. Et il y avait ce journal. Alors, l'anecdote la plus rigolote, c'est qu'ils n'avaient pas vu, enfin, ils n'avaient pas pris ce journal, c'est en anglais, bon, ils n'avaient pas. Par contre, ils ont vu qu'il y avait un passager devant eux qui avait ce journal, puis ils ont dit « Oh, ça a l'air intéressant, on pourrait en savoir plus ». Et ils ont attendu que le passager aille aux toilettes pour aller consulter ce journal, et ils ont dit « Oh, c'est super intéressant, il y a une étoile qu'on vient de découvrir avec un disque vu exactement par la tranche, et Alfred Vidal-Majar et Roger Ferlet sont des spécialistes du milieu interstellaire qu'ils observent en faisant de la spectroscopie d'absorption, en observant le gaz qui est entre les étoiles et nous. En gros, pour expliquer comment ça fonctionne, si on décompose la lumière en fonction de sa longueur d'onde, de sa couleur, eh bien, si on a du gaz qui est présent, on a des électrons du gaz qui passent d'une couche à une autre, et donc ça émet de la lumière, et par exemple, si on fait un spectre d'une nébuleuse comme là, on voit des raies d'émission à différentes couleurs, différentes longueurs d'onde qui correspondent à la composition du gaz, par exemple, de cette nébuleuse planétaire. Alfred Vidal-Majar et Joël Ferlet, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent une technique différente, c'est pour voir du gaz qu'on ne voit pas, en quelque sorte, qui est entre nous et une étoile, et cette fois-ci, le gaz va absorber la lumière de l'étoile, et ça fait des raies d'absorption. Il y a moins de lumière aux longueurs d'onde qui correspondent aux longueurs d'onde du gaz qui compose le nuage qu'ils voulaient observer. Alors, ils se sont dit « Ah, mais c'est super, on a un disque vu par la tranche, on va voir s'il y a du gaz, on va observer. » Et c'était une époque magique où quand on avait du temps sur un télescope, on allait au télescope et puis on devait observer telle étoile, telle étoile, telle étoile. Mais bon, si on utilisait un peu de notre temps pour observer une autre étoile, c'était tout à fait banal et autorisé. Personne ne se posait de questions, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, comme on fait à distance, enfin, puis c'est très contrôlé qu'est-ce qu'on observe. Mais à l'époque, c'était vraiment très facile de dire « Ah bah tiens, une étoile, on a vu dans le journal qu'on a piqué dans l'avion qu'elle était intéressante, on va l'observer. » Et ils l'ont observé, et pour vous montrer combien cette observation a été faite immédiatement, vous voyez, c'était le journal était le 17 octobre 1984, et la première observation que l'on voit ici, a été faite le 20 octobre 1984. Et trois jours après, ils étaient au télescope et ils faisaient le premier spectre de Beta Pictoris qu'on avait dans l'histoire. Alors là, ils ont découvert le disque de gaz. En fait, grosso modo, ce spectre, c'est la lumière en fonction de la longueur d'onde. Donc, bon, il y a l'arrêt de l'étoile. Ça, c'est le gaz de l'étoile qui fait cette grosse cuvette. En plus, il y a une raie d'absorption. Ça, tout de suite, ils ont vu ça. Le 20 octobre 1984, ils ont vu la raie d'absorption, ils ont découvert le disque de gaz. Trois jours après, le disque de gaz était découvert. Mais le plus intéressant, c'est qu'ils ont fait des observations à d'autres dates. Par exemple, ils ont fait une observation en octobre 85, et vous voyez, il y a une absorption à une autre longueur d'onde, un petit peu à côté. Et puis, si on fait et je crois que c'est la première observation historique d'un transit d'une exocomète, le 13 novembre 1984. Vous voyez cette petite raie que j'ai soulignée en rouge. Une absorption supplémentaire. Et ça variait tout le temps. Il faisait un spectre, un autre spectre, deux heures après, la raie avait disparu. Deux heures après, elle avait revenu une autre. Et ils ont mis du temps à comprendre, parce que c'était complètement inattendu. Enfin, faut se remettre dans le contexte de 1984. Hein. Maintenant qu'on connaît la solution, c'est facile. Mais il faut se mettre dans le contexte où le spectre bouge tout le temps. Et ils ont trouvé l'explication. Vous voyez, ça fait 40 ans. Hein. Ils ont mis quelques temps, peut-être 3 ans, parce que la publication que je cite ici de Ferlet, 1987, ils ont mis 2-3 ans à essayer de comprendre, à réobserver plein de fois pour proposer un scénario. Et le scénario, c'est les exocomètes. Et ça, ce scénario d'exocomètes permet d'expliquer plein de propriétés qui sont observées depuis 40 ans. On a fait plein d'autres observations. Alors, je ne vais pas vous donner de détails de comment on a fait ces mesures, mais faire juste une liste de toutes les propriétés qu'on a pu observer grâce à la spectroscopie. On a pu mesurer la vitesse du gaz, on a pu mesurer les échelles de temps, on a pu mesurer la taille des nuages de gaz, la température, la présence d'espèces très ionisées. Et tout ça s'explique s'il s'agit de comètes. Donc, ils ont mis au moins une bonne dizaine d'années, à convaincre la communauté qu'il s'agissait d'observations d'exocomètes. Oui, c'était 10 ans avant les premières observations d'exoplanètes, en 1995. Mais au bout d'une dizaine d'années, on était convaincus qu'il s'agissait d'exocomètes et on a fait plein d'observations, on a continué. Et là, je vais vous tracer un des résultats qu'on a obtenu ici à l'Institut d'astrophysique de Paris avec, entre autres, Flavien Kiefer. On a fait plein d'observations, puis on a même pu faire, vous voyez, 30 ans après, on a pu faire des statistiques de toutes ces observations. Et on a publié donc en octobre 2014, il y a une dizaine d'années, avec Flavien Kiefer, la détection de 500 exocomètes qu'on a pu caractériser. Et on a pu montrer que dans ces raies d'absorption, il y avait plusieurs types de signatures. Il y avait des raies que j'entoure ici en bleu, des raies qu'on appelle D pour deep, des raies très très profondes, la signature qui a beaucoup de gaz. Et puis des raies qu'on appelle S pour shallow en anglais, des raies d'absorption qui sont beaucoup plus, à plus grande vitesse et beaucoup plus larges. Et toutes ces études ont montré que probablement il y avait plusieurs familles de comètes. Vous voyez, on en est même à pouvoir faire des différentes familles de comètes. Et la famille, les raies D sont probablement provoquées par un corps unique qui s'est fracassé. Et tous ces objets sont sur la même orbite. Et puis, les comètes S, pour shallow, sont probablement des comètes qui sont piégées en résonance avec une planète. Donc, on a des éléments sur les orbites de ces comètes. Je n'ai pas le temps de le détailler ce soir. Mais vous voyez, on peut vraiment faire des études statistiques extrêmement développées grâce à ces observations spectroscopiques. Je vous ai dit, on pouvait voir le gaz et voir qu'on fait des choses vraiment extrêmement développées avec l'observation du gaz. Mais on peut aussi observer les poussières. Alors là, les poussières, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la luminosité de l'étoile en fonction du temps. Et pour vous expliquer comment ça fonctionne, j'ai une petite animation où vous voyez donc une étoile, une planète qui est devant, et on représente en fonction du temps, c'est une courbe de lumière, ce qui est notre outil quotidien pour analyser ces observations, c'est on représente en fonction du temps la brillance de l'étoile qu'on observe. Donc on observe, on ne résout pas, on ne fait pas une image comme ça, en fait, on voit juste la mesure de la luminosité de l'étoile et qu'on mesure en fonction du temps. Alors s'il y a il n'y a pas de planète qui passe devant, la luminosité est constante dans le temps, ça ne bouge pas. S'il y a une planète qui passe devant l'étoile, c'est comme ça qu'on détecte les exoplanètes par la méthode des transits, quand la planète est devant l'étoile, l'étoile est un tout petit peu moins lumineuse. Pendant tout le passage de la planète, elle est à peu près la même luminosité. Pas exactement parce que l'étoile est un peu plus lumineuse au centre qu'au bord, mais grosso modo, elle est à peu près moins lumineuse. Puis quand la planète a fini de passer devant l'étoile, ça revient à la luminosité normale. C'est ce qu'on appelle une courbe de transit d'une exoplanète. C'est ce qu'on étudie en grand détail pour détecter plusieurs milliers d'exoplanètes à l'heure d'aujourd'hui. Ça, c'est la forme de la courbe de lumière du passage d'une planète. Pour une comète, ça va être un peu différent, parce que la comète, on va voir, ce n'est pas le noyau, c'est les poussières qui sont derrière qui suivent la comète. Donc la baisse de luminosité va être assez rapide, mais plus progressive quand l'objet commence à passer devant l'étoile. Et puis surtout, et ça c'est le plus important, quand la comète va être passée, il reste la queue derrière. Et ça dure un peu plus longtemps, ça peut durer 2-3 jours, où les poussières continuent de cacher, donc ça fait une remontée progressive de la lumière à la normale, et cette signature est la signature d'un transit d'un objet plus étendu, plus ténu, comme une queue de poussière d'exocomète. Alors, c'est cette différence entre planète et comète, il se trouve que j'y avais réfléchi il y a 25 ans de ça, maintenant. C'était en 1998-1999, et c'était même avant les premières détections de transit d'exoplanètes. On n'avait pas encore détecté de transit d'exoplanètes, mais on construisait les instruments pour détecter ces transits d'exoplanètes. Et je me suis dit, ces instruments qu'on construit pour, dans quelques années, quelques dizaines d'années, détecter des transits d'exoplanètes, est-ce qu'ils ne pourraient pas voir des comètes? Alors je me suis dit, faisons le calcul. Et j'ai fait le calcul, et j'ai publié, vous voyez, en 1999, donc il y a 25 ans de ça, Photometric Stellar Variation Due to Extrasolar Comet. Et puis j'ai même fait une librairie de différentes formes de transit. Et j'ai publié ça en 1999, en me disant, c'est quand même un travail intéressant, mais qui a eu peu d'intérêt, en fait. C'est un travail qui a été cité peut-être deux ou trois fois en 20 ans. Personne ne s'intéressait à ça. on l'avait publié. Dans cette publication, la première figure du premier article, c'est celle-ci. Donc, c'est la forme d'un transit d'exocomète. Vous voyez cette baisse assez rapide au début, quand la comète passe, et le remontée progressive, une forme d'aile de requin inversée, en quelque sorte. Publié en 1999, et tombé dans les oubliettes de la littérature scientifique. Mais le temps est passé, et on a produit des instruments qui permettent de mesurer de façon très précise la luminosité des étoiles. Par exemple, la mission Kepler de la NASA, qui a observé 150 000 étoiles pendant 4 ans. Avec une précision, comme c'est un observatoire spatial, avec une précision de 1/10 millième, c'est-à-dire qu'une baisse de 1/10 millième de la luminosité de l'étoile est mesurable. Et il se trouve que c'est ce qu'il faut voir pour voir des exocomètes, des poussières d'exocomètes, parce que ces queues sont très, très, très ténues. Ce n'est pas comme une planète qui cache intégralement la lumière de l'étoile. C'est très ténu, donc il faut des mesures extrêmement précises. Mais ça a été fait. Et on a une détection qu'on a publiée en 2017, mais je ne vais pas en passer plus de détails, mais une autre détection faite par des collègues du MIT et qui a détecté, vous voyez, des baisses de lumière qui ressemblent fichtrement à ce qui avait été prédit et qui donc sont interprétées comme le passage de poussière d'exocomètes détectée par la mission spatiale Kepler. Mais ça continue, parce qu'après la mission spatiale Kepler, les Américains ont lancé la mission spatiale TESS. Alors TESS, c'est une autre mission spatiale qui a d'autres propriétés. Ça observe des étoiles plus brillantes dans l'environnement du Soleil et dans toutes les directions. Mais grosso modo, pour nous qui s'intéressons aux exocomètes, le résultat est à peu près similaire, c'est 200 000 étoiles qui ont été observées, jusqu'à à peu près 200 années-lumière. Et ils ont observé énormément d'étoiles et ont fait des mesures. Je vous rappelle ici la courbe qui avait été publiée en 1999. Et en 2019, TESS a observé, enfin en 2018, mais publié en 2019, TESS a observé Beta Pictoris. Et regardez ce qu'ils ont vu. C'est pas magique. 20 ans après, vous voyez, une observation du 2 janvier 2019, la photométrie de Beta Pictoris. Et sincèrement, quand j'ai reçu l'article publié par Stéphane Ziba et ses collaborateurs, qui est un étudiant en master qui a fait son stage avec Matthew Kentworthy aux Pays-Bas. Donc, vous voyez, un étudiant en master qui fait un stage aux Pays-Bas peut analyser des données et faire une découverte de ce type. Voilà le premier transit d'une exocomète en photométrie de façon tout à fait claire. Et moi, ce qui me rend fier, c'est la courbe que j'avais publiée 20 ans avant. Parce que là, je me dis, j'avais visé juste, quoi. Et pour eux, c'était aussi important qu'on ait publié ces résultats avant, parce que comme c'était prédit, qu'on observe quelque chose qui est prédit, ils peuvent se dire, c'est vraiment ça qu'on a vu. En plus, on savait qu'il y avait des comètes dans Beta Pictoris, on les avait vues en spectroscopie. Donc, c'est vraiment un résultat qui confirme la nature cométaire de ce qu'on avait vu en exocomète et qui peut être interprété comme un transit cométaire parce qu'il y avait les modèles, les simulations numériques qui avaient été publiées avant l'observation. Alors, nous, en fait, je n'avais pas réalisé que Tess allait observer BetaPix, je n'avais pas regardé ça. Quand j'ai vu ça, je dis, oh, qu'est-ce que de bête, on n'y avait pas pensé. Enfin, d'autres y ont pensé, donc très bien. En plus, c'est plutôt des amis. Matthew Kentworthy, c'est quelqu'un de très grande qualité qui a eu justement cette idée de voir ce qu'on pouvait voir. Et c'est très bien, mais on s'est dit, ah, quand même, c'est dommage qu'on n'y ait pas pensé. Mais Tess a réobservé. Les observations, là, c'était 2018-2019. Et Tess, voilà, donc en 2018, voilà les trois transits observés par Matthew Kentworthy et Stéphane Ziba, qui sont en haut. Et en 2021, eh ben, nouvelles observations. Et donc, on a à nouveau observé Beta Pictoris avec Tess. Et là, on s'est dit, on va s'intéresser au sujet dès que les observations ont été publiées. On les a analysées, entre autres une étudiante de l'École des Mines, Lucie Crowe, qui a fait son stage avec moi pendant 6 mois pour analyser ces données, qui a permis de faire ces mesures. Et on a découvert, dans l'ensemble de toutes ces observations, le transit de 30 exocomètes. Vous voyez, là, j'en donne quelques exemples. En tout, on a, sur 156 jours d'observation avec Tess, on a 30 exocomètes qui ont été détectés. Et si on a pu en détecter 30, il y a aussi des astronomes ukrainiens, Pavlenko et ses collaborateurs, qui ont fait à peu près en même temps que nous le même analyse et qui ont détecté, je crois, 8 ou 9 transits d'exocomètes. Si nous, on a pu en observer, en sortir à partir des mêmes courbes de lumière, 30 objets, c'est parce qu'on avait une force, c'est qu'on avait les modèles des simulations numériques, et donc on avait une connaissance un peu plus fine de la forme de ces courbes de lumière, et ça, ça a été une force importante pour mieux analyser ces observations et en tirer un peu plus et aller chercher les tout petits transits, donc des petits corps, qui dans le bruit des mesures. Donc on avait une connaissance peut-être un peu plus expérimentée de ces transits en photométrie des exocomètes, et on a pu en observer 30. Et là, quand on passe de 3 transits de comètes détectés par Stéphane Ziba et Matthew Kentworthy publiés en 2019, on passe à 30, que nous avons publiés en 2022, et bien ça change tout. Parce que quand on passe de 3 à 30, on passe de quelques individus à une population, et on peut faire des statistiques, et on peut voir quelle est la distribution de ces corps. Et ce qu'on a eu l'idée de faire, justement, grâce à l'utilisation des simulations numériques, on a pu transformer ces courbes de lumière en la détermination du taux d'évaporation des poussières. Et ce taux d'évaporation des poussières est un traceur de la taille du noyau cométaire. Et donc, on a pu, avec l'aide de simulations numériques, déterminer la taille du noyau cométaire qui produisait ces transits de poussière. Et 30 objets, je vous dis, on peut faire des statistiques. Et on a vu quelle était la distribution en taille des noyaux cométaires. Et vous voyez, donc, j'ai représenté sur ce diagramme le nombre de détections sur les 30 que l'on a, en fonction du diamètre, avec entre 3 et 4 km, 4 et 6, 6 et 8, 8 et 10, et 12 et 14. J'en profite pour remercier mon collègue Guillaume Aimerard, qui ici présent, qui a commencé à présenter cette conférence, parce que c'est lui, quand j'ai fait ces détections, j'avais les taux d'évaporation et une estimation... une échelle de grandeur sur la taille des corps. Et c'est Guillaume, je m'en souviens très très bien, je pensais que c'était impossible de remonter jusqu'à la taille des corps en kilomètres. Et il m'a dit, mais tu devrais quand même essayer. Puis il a insisté. Hein. Enfin, vous voyez, comme quoi, je vous raconte cette histoire parce que toutes ces découvertes sont toujours, c'est jamais une personne toute seule, en fait. C'est toujours lié à des échanges entre des gens qui... discutent avec leurs collègues, qui présentent leurs résultats, qui disent « tu pourrais réfléchir à ça, etc. » Et là, c'est exactement ça qui s'est produit. J'avais une ébauche de résultats, et Guillaume, avec qui nous échangeons souvent, m'a dit « tu devrais aller plus loin et essayer de voir si tu peux mesurer la taille en kilomètres. » Je dis « mais non, c'est pas possible, enfin, c'est vraiment trop ambitieux, ça tombera jamais juste. » Puis en revenant au bureau, j'ai dit « bon, je vais quand même essayer. Et j'ai essayé, et c'est ça qui m'a vraiment surpris, c'est que je m'attendais à trouver des résultats absurdes, et je suis tombé sur exactement la taille de quelques kilomètres, tel que je le présente sur ce diagramme, qui correspond exactement à la taille de quelques kilomètres des noyaux cométaires, tels qu'on les observe et les mesure dans le système solaire. C'est ça qui est absolument fabuleux dans cette histoire. Et donc on a la mesure de la taille en kilomètres, alors peut-être un facteur 30%, même peut-être un facteur 2 d'erreur en fonction des hypothèses que nous avons faites, mais globalement ça prouve que c'est d'objets de taille kilométrique. Et surtout, le plus important, c'est que nous avons la distribution en taille, combien il y a de gros corps par rapport aux petits corps. Sur ce diagramme, on le voit déjà. Vous voyez, il y a 16 corps qui ont entre 3 et 4 km, 8 entre 4 et 6 km, et 4 corps qui ont entre 6 et 8 km, et un seul d'une dizaine de kilomètres, et un seul d'une quatorzaine de kilomètres. Ben, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de petits corps que de gros corps. Et ça, c'est la signature de la production par fragmentation. Si vous prenez un objet en verre, vous fracassez sur le sol, qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver un ou deux très gros morceaux, une petite dizaine maximum de morceaux de taille intermédiaire et des centaines de poussières de toute petite taille. C'est la fragmentation, vous produisez très peu de très gros corps et énormément de tout petits corps. Donc là, on a la signature de la fragmentation, et encore plus, parce que là, c'est représenté, vous voyez, en histogramme, pour que ça soit plus visible. Il y a une autre courbe qu'on peut faire, c'est la distribution avec la fonction de distribution, qu'on appelle la fonction de distribution, où on met chaque objet, vous voyez, chaque petit carré bleu, c'est une comète, et on les a triés du plus grand au plus petit, et on a mis le nombre sur une échelle logarithmique, vous voyez, de 1 à 10, comme il y en a 30, vous voyez, ça va jusqu'à 30 sur l'échelle logarithmique, et le plus gros fait un peu moins de 14 km. D'accord ? Et le plus petit, un peu moins d'un kilomètre de rayon, et ça fait un peu moins de 3 km de diamètre. D'accord ? Et on les trace comme ça, sur cette échelle, fonction de distribution cumulative, avec une échelle logarithmique. Et si ça trace une droite, ça veut dire que c'est une loi de puissance. La probabilité d'avoir un corps d'une certaine corps est donnée par une loi de puissance. Et la loi de puissance qu'on mesure, vous voyez, elle est inscrite sur ce diagramme, c'est une puissance en moins 3,6. Et quand j'ai trouvé ce chiffre, c'était magique, parce que le chiffre pour lequel on s'attend à trouver pour le résultat de la fragmentation, c'est 3,5. Et devinez qu'est-ce qui est observé dans le système solaire. Alors, en fait, ce chiffre est tellement important qu'il est mesuré dans les comètes à longue période, dans les comètes à courte période, dans les astéroïdes qui frôlent la Terre, dans les astéroïdes ceci. On peut trouver 4, 5, 6 familles différentes d'objets dans le système solaire pour lesquelles les spécialistes du système solaire mesurent cette distribution, parce que c'est un traceur de l'histoire. Et il le mesure, et pour toutes ces familles, alors dans le système solaire, on mesure à peu près 3,5. Même mieux, parce que comme évidemment, le système solaire a encore plus d'informations, on a encore plus d'objets, on fait des détails quand ça change par rapport à 3,5. Est-ce que les tout petits corps, c'est plus tout à fait la même distribution? Dans le système solaire, c'est encore aujourd'hui, on trouve des publications récentes sur cette mesure dans le système solaire. Et là, pour la première fois, on a pu le faire, cette mesure de la distribution de la taille des petits corps dans un système extrasolaire, et c'est une mesure qui est une quantité qui est traceur de l'histoire de ces corps et qui nous montre que ces corps se sont issus de la fragmentation, donc ce n'est pas uniquement l'agglomération qui détermine la distribution en taille des corps, c'est toute une histoire beaucoup plus complexe où on a l'accumulation des petits corps pour donner des plus gros, mais ces plus gros se cognent entre eux pour donner des plus petits, et c'est un échange entre les petits corps et les gros corps dans lequel le processus de fragmentation qui forme des petits à partir des gros joue un rôle primordial. Et le fait qu'on ait fait cette mesure dans un système extrasolaire a aussi des conséquences pour le système solaire, parce que ça montre, c'est la seule fois pour l'instant on est dans un autre système, hein, mais ça montre que ce 3.5 dans le système solaire n'est pas une coïncidence. On le mesure dans le système solaire, mais après tout, peut-être que c'est autre chose. Mais le fait qu'on le mesure dans un autre système et qu'on trouve la même valeur que celle qu'on s'attend à trouver pour les processus de fragmentation, ça prouve que dans le système solaire, ce n'est pas une coïncidence, c'est vraiment quelque chose de fondamental et qui trace l'histoire des petits corps. Alors, maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'on va faire au-delà de ça ? Ça, c'est les derniers résultats les plus importants, mais on continue de travailler sur ces questions et on a plein de défis, en fait, à faire avec ces exocomètes. J'espère que vous êtes convaincus que c'était absolument extraordinaire et qu'on peut faire plein de choses en observant ces petits corps que l'on observe grâce au processus d'évaporation en traçant les propriétés de leur queue en poussière ou en gaz. Alors d'abord, on peut essayer d'en savoir un peu plus sur ces petits corps eux-mêmes, en fait. Quelles sont leurs propriétés ? Par exemple, quel est le rapport gaz-poussière pour connaître l'histoire de la condensation de ces corps au moment de la formation. On peut essayer de mesurer les abondances. Est-ce qu'il y a beaucoup d'oxygène, beaucoup de carbone, qui est aussi un traceur de quel endroit ces corps se sont solidifiés, à quel endroit, par rapport à la distance de l'étoile, le gaz est devenu solide. Et pour ces mesures d'abondance, pour l'instant, on n'a aucune information sur les mesures d'abondance. C'est relativement compliqué. Mais j'ai bon espoir qu'on le fasse très très prochainement, parce qu'un doctorant dans notre équipe, Théo Vignot, est en train de mettre au point des techniques pour mesurer ces abondances. Et j'ai vraiment très bon espoir que d'ici quelques mois, quelques années, on puisse faire des mesures d'abondance dans les comètes d'extrasolaires grâce aux travaux de ce doctorant, Théo Vignot. Alors on veut mesurer aussi les propriétés physiques, la taille des noyaux, etc. On veut en savoir plus, évidemment. Mais on veut aussi en savoir plus sur, non pas je vous ai dit, les objets sont intéressants pour eux-mêmes, mais ils sont intéressants parce qu'ils ont des interactions avec d'autres objets des systèmes planétaires. Et donc, on veut savoir pourquoi on voit surtout ces objets dans les disques de débris, les liens avec l'âge des systèmes planétaires. On veut aussi savoir comment ils interagissent, comment les interactions gravitationnelles avec les planètes qui les mettent sur ces orbites elliptiques et quelle est l'histoire. Parce que même pour le système solaire, finalement, on sait peu de choses sur qu'est-ce qui s'est passé les premières centaines de millions d'années pour nettoyer tous les petits corps qui étaient issus de la formation des planètes du système solaire et comment ils ont été nettoyés par les planètes. Et ça, on peut le caractériser mieux avec l'observation des exocomètes. Et puis, donc, en fait, vous avez compris, tout ça, c'est pour en savoir plus sur tous les processus de formation et d'évolution. Les systèmes planétaires naissent pas de façon figée. Ça y est, ça naît, c'est fini, ça restera comme ça pendant des milliards d'années. En pratique, on le voit avec les observations des planètes, par exemple, qu'on a détecté, découvert l'évaporation. Pour les systèmes cométaires, les petits corps, c'est la même chose. Les systèmes planétaires se forment, mais ils évoluent sur différentes échelles de temps, sur l'échelle de temps de centaines de millions d'années, de milliards d'années. Et le système planétaire qu'on observe aujourd'hui n'était pas forcément celui qu'il était à sa naissance, comme pour nous. Vous ne ressemblez pas à ce que vous étiez au moment de votre naissance. Vous avez évolué avec des échelles de temps différentes, beaucoup plus les premiers mois que les dernières décennies. Mais c'est exactement pareil pour les systèmes planétaires. Ils forment, ils évoluent et on veut en savoir plus. Alors pour ça, on a des instruments. Alors j'ai deux diapositives d'instruments, je m'arrêterai là. Les instruments qu'on utilise aujourd'hui, pour le faire, on a vraiment des observations qu'on fait aujourd'hui, qu'on a fait il y a quelques semaines ou qu'on fera dans quelques semaines. En haut, j'ai mis les instruments que nous utilisons pour faire des observations spectroscopiques avec le spectroscope ARPS qui a détecté énormément d'exoplanètes, mais qu'on utilise aussi pour observer les exocomètes sur le télescope de 3,60 m à la CIA au Chili, le télescope de l'ESO. On utilise énormément le télescope spatial Hubble et on a même fait cet été, vous voyez, c'était le 8 août dernier. Le 16 avril et le 8 août dernier de 2024, nous avons fait des observations simultanées avec le télescope Hubble et le télescope ARPS pour détecter les mêmes comètes dans l'ultraviolet, dans le visible, voire des raies différentes, etc. Donc on a fait les premières observations coordonnées ciel, sol, espace pour caractériser ces exocomètes et on a des résultats qui sortiront bientôt à partir de ces observations. Et puis pour les poussières, on a des instruments, je vous ai dit TESS, la NASA. On a aussi un instrument qui est moins connu peut-être, mais qui est de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui est un petit télescope lancé en 2019, KEOPS. Et on a détecté un transit d'exocomètes sur une autre étoile que Beta Pictoris, HD 172-555. Je n'ai pas le temps de détailler toutes les exocomètes qu'on a détectées, mais on a fait aussi des détections en photométrie avec un observatoire de l'Agence spatiale européenne, KEOPS. Et puis, l'Agence spatiale européenne va lancer, dans les quelques années qui viennent, deux missions spatiales extrêmement importantes pour l'observation des exoplanètes et donc aussi pour l'observation des exocomètes. La mission Plateau, en photométrie. Voyez, en fait, il y a deux missions spatiales pour les systèmes extrasolaires. Une photométrie, une en spectroscopie. Plateau en photométrie, et on espère qu'on pourra détecter vraiment énormément de transit d'exocomètes avec cette mission, parce qu'elle donnera des observations photométriques extrêmement précises. Et il se trouve que, par magie, c'est un instrument qui est pointé, qui va observer une région du ciel. Il ne va pas observer tout le ciel comme TESS, mais par magie, il se trouve que Beta Pictoris se trouve dans le champ qui sera observé par Plateau. Donc là, c'est un joli cadeau. Et puis, on aura la mission spatiale Ariel, qui va faire des observations en spectroscopie dans l'infrarouge, et pour lequel on espère aussi qu'elle sera possible de l'utiliser pour faire des transits d'exocomètes, et donc déterminer en photométrie les propriétés des poussières, en spectroscopie les propriétés du gaz. Et sur ce, je vous remercie.
Merci beaucoup Alain pour cette présentation, pour ce panorama donc de 40 années de résultats sur les exocomètes. Peut-être un petit commentaire sur la comète donc qui était visible la semaine dernière donc dans le ciel, dans la campagne autour des Mureaux. Donc on est plusieurs à l'avoir vue à l'œil nu. Quelques jours avant même, on la voyait dans le sud de la France vraiment très bien à l'œil nu. D'ailleurs, je pourrais faire un petit sondage là dans la salle et puis sur YouTube, là, ceux qui nous suivent. Qui dans cette salle a pu observer la comète les quelques semaines qui sont passées là ? Levez le doigt. Je ne suis pas tout seul quand même, on est deux, trois, pas beaucoup. Oh là là ! Ah, c'est dommage, alors sur Internet.
Vous l'avez vu à l'œil nu ?
Ouais. Avec des jumelles. Bon, on est plusieurs à l'avoir vu à l'œil nu. Je suis désolé que vous ne l'ayez pas vu.
Il y a un débat parce que nous étions sur le même site au Mureaux et moi je ne la voyais pas avec mes yeux de vieux, et lui avec ses yeux tout à fait performants, la voyait, donc j'étais très jaloux, et j'ai prétendu qu'il la voyait pas.
Bien, alors y a-t-il des questions, des commentaires ? Il y en a quelques-uns sur le chat, je vais en prendre un. Dans la salle, y en a-t-il une ? Oui ?
Oui, bonsoir, merci pour cette conférence. Vous disiez que, quand vous avez parlé des comètes du système solaire, apparemment on n'en voit pas beaucoup, il y en a une tous les ans, ou tous les deux ou trois ans. Et pour Beta Pictoris, on en a trouvé 30 en 6 mois.
Oui, alors en fait, non, dans le système solaire, on voit plus de... Alors je ne connais pas le nombre, mais on voit plus qu'une tous les 5 ans. Ça, c'est vraiment les grosses qui font la une des journaux pour lesquelles on peut facilement faire des images. Mais en pratique, on voit plusieurs dizaines d'objets de type cométaire qui sont... c'est quelque chose d'assez courant et pour lequel, grâce auquel on peut faire des statistiques très poussées sur la composition, la taille des noyaux, etc. Donc, en fait, là, je donnais une vision biaisée en ne prenant que la partie émergée de l'iceberg, on va dire.
Bien, alors je vais prendre juste des questions, des commentaires sur YouTube, notamment beaucoup qui disent qu'ils ont pu voir la comète à l'œil nu des jumelles, notamment au sud de la France. Mais c'est vrai que la météo n'a pas été favorable, on n'a pas eu une très bonne météo, y compris dans le sud de la France, pour observer cette comète. Alors il y a une question là sur ce que tu as présenté vers la fin. La loi de distribution des comètes est-elle liée à l'âge du système observé ?
Non, parce que justement, c'est quelque chose qui est figé au moment de la formation des corps, donc tout au moment du début de la formation des corps jusqu'aux planètes par agglomération. Donc pour former une planète, grosso modo, la recette est la suivante. Vous prenez des toutes petites poussières de quelques fractions de microns, vous les collez les unes aux autres, ça fait des petits cailloux. Ces petits cailloux, vous les collez les uns aux autres, ça fait des gros cailloux. Les gros cailloux, vous les collez, ça fait des astéroïdes ou des planétésimaux de quelques centaines de kilomètres. Et ces objets se rencontrent de temps en temps, et s'agglomère et ça fait une planète comme la Terre. Ou si on a de la chance qu'on est plus loin dans le système solaire où la glace d'eau peut se former, à la distance de la Terre-Soleil, l'eau est sous forme vapeur en fait. On voit, l'eau ne peut pas rester à l'état solide de la forme de glace à la distance Terre-Soleil. Par contre, on est à la distance de Jupiter, l'eau est sous forme de glace et donc on a des corps plus gros. Et si on a la chance d'avoir des gros, gros corps qui s'accumulent, on dépasse 15 masses terrestres. Et à partir de 15 masses terrestres, on agglomère, on est suffisamment massif pour attirer tout le gaz qui est autour et former une planète géante gazeuse. Donc, vous voyez, le processus de formation des planètes, c'est accumulation. Et ce qu'on a prouvé avec ces distributions pour le système solaire et pour les exocomètes en moins 3.5, c'est que la fragmentation, donc le processus inverse, des gros corps qui se cognent pour former des plus petits, joue aussi un rôle. Et à la fin, donc pour répondre à la question, quand tout ça se fige, à partir de quelques millions, dizaines de millions d'années, eh ben c'est gelé parce que les rencontres sont beaucoup moins fréquentes, tout ça est gelé, et la distribution qu'on observe aujourd'hui, c'est la distribution issue des processus de formation il y a 4,5 milliards d'années.
Merci. D'autres questions dans la salle ? Oui.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais savoir, les comètes ou les exocomètes, quand elles s'approchent de leur étoile, elles s'évaporent. Alors bien sûr, ça dépend de la distance à l'étoile, mais est-ce qu'on a une idée de la proportion de perte de masse ? Et ça, c'est la première question. Et deuxième question, dans leur, quand elles parcourent leur orbite elliptique, est-ce qu'elles se rechargent ?
Ah non, alors, une comète ne se recharge pas, c'est pas comme une voiture électrique. Malheureusement, il n'y a pas de borne de rechargement dans le confin du système solaire. Donc, une comète qui passe proche de son étoile perd de la matière, comme vous le mentionniez. Et effectivement, elle perd de la matière, ça fait la queue, etc. Et au fur et à mesure de ses passages, elle s'épuise. Et au bout de quelques centaines de passages, elle est épuisée. Et on connaît dans le système solaire des comètes épuisées. Il n'y a plus de réserves de volatiles, de glace. Il n'y a plus que des roches qui sont trop réfractaires pour s'évaporer. Et on connaît dans le système solaire où des comètes presque complètement épuisées qui il ne reste plus rien. Quoi, voilà. Et donc ça, elles ne se rechargent pas. Et vous me posiez la question sur est-ce qu'on a une estimation de la quantité de matière perdue. Alors, avec les poussières, on peut estimer le taux de production de poussière, et c'est ça qui nous permet de remonter à la taille des corps. Et c'est des taux de production qui font que la comète perd à chaque passage quelques pourcents maximum, enfin une fraction de sa masse. Ceci dit, en spectroscopie, on a un problème. C'est justement avec Théo Rignot que nous avons réalisé l'étude de doctorant dont je parlais, parce qu'on est en train de mesurer les compositions. On a réalisé que si on observe le fer, par exemple, et si on fait la somme du fer qu'on observe sur des temps relativement constants, enfin, en faisant quelques hypothèses sur le temps, on trouve des masses de fer qui sont absolument colossales. Je dirais qu'on n'est pas sûr de tout comprendre, en fait. J'ai fait croire pendant une heure qu'on comprenait tout. En pratique, je ne vous le dirai pas en sortant d'ici, mais il y a des tas de trucs qu'on ne comprend pas. Et même une question aussi simple, d'apparence aussi simple que la vôtre, si on creuse un petit peu, je ne suis pas sûr qu'on comprenne vraiment tout.
On a un internaute qui pose beaucoup de questions avec quelques confusions. Donc il y en a une, tu vas nous aider à relever cette confusion. La question est la suivante, les perséides pluies de comètes du mois d'août, comment expliquer ce phénomène ? Donc si tu peux un peu...
Alors,
la confusion,
les perséides, c'est lié aux comètes. En fait, ce n'est pas une pluie de comètes, c'est une pluie de météorites, une pluie qu'on appelle l'étoile filante dans le langage courant. En fait, c'est des petites poussières qui sont dans l'espace et qui rencontrent la Terre, vont dans l'atmosphère de la Terre et se consument dans l'atmosphère de la Terre avant d'atterrir sur Terre, ce qui fait cette traînée lumineuse que l'on voit de météorites ou d'étoiles filantes. Donc, les perséides... ce ne sont pas des comètes, ce sont des météorites. Mais c'est lié effectivement aux comètes parce que ces petites poussières sont issue de les queues de poussière d'une comète. Alors, je ne me souviens plus du nom de la comète qui a produit les Perséides. Peut-être, elle est connue. Je crois que c'est une comète du 19e siècle qui a été observée, qui est connue. Et il se trouve que la Terre passe dans l'orbite de cette comète au mois d'août tous les ans, parce que l'orbite est connue. Et dans cette orbite, il y a des poussières qui traînent, qui sont restées de l'évaporation de la queue de poussière de cette comète. Le nom va me revenir, mais là, il ne me revient pas. Observé au 19e siècle. Et c'est assez récent, et c'est pour ça qu'il y a encore aujourd'hui suffisamment de poussière pour qu'on puisse les observer dans ce magnifique ciel d'été sous la forme des pluies d'étoiles filantes, les Perséides.
Une autre question dans la salle, oui ?
Merci pour cet excellent exposé, très intéressant. Est-ce qu'il y a des comètes vagabondes, c'est-à-dire qui ont pu s'échapper, ou est-ce qu'elles sont toutes capturées ?
Oui, alors, vous m'auriez posé la question il y a quelques années, je vous ai dit « je ne sais pas », probablement, mais je ne sais pas. Et là, je peux vous répondre « oui ». Parce qu'on a observé dans le système solaire deux objets qui ne sont pas des comètes qui ont des orbites qui permettent de déterminer qu'elles ne viennent pas d'un réservoir autour du Soleil, mais qu'elles viennent d'un système extrasolaire. Et alors la première, c'est Oumuamua, qui est une forme allongée. Une des possibilités pour expliquer les observations, c'est une forme allongée, mais même ça, c'est débattu, en fait. Donc, probablement un objet de forme allongée. Et puis, il y a eu même pas mal de débats, est-ce que c'était un objet, une navette interstellaire d'une civilisation, parce qu'elle avait une trajectoire qui n'était pas tout à fait comprise. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce débat, mais enfin, c'est probablement une sorte d'astéroïde qui vient d'un système extrasolaire. Et il y a la comète Borisov, qui a une orbite complètement hyperbolique, dont on est certain qu'elle vient d'un système extrasolaire. Et là, pour le coup, ce n'était pas un astéroïde, c'était vraiment une comète. On a pu observer, on a fait des modèles, comme on fait des modèles de comètes, pour interpréter les observations de cet objet. Et je ne me souviens pas quelle année elle est passée, mais c'est peut-être en... Non, je sais, enfin, il y a quelques années.
Bien, je vais prendre encore une ou deux questions et puis nous allons arrêter. Donc, notamment, il y a une question sur Internet. Là, avez-vous déjà repéré par votre technique la désagrégation d'une exocomète ?
Non, mais non. En fait, on ne peut pas, parce qu'on n'observe que le transit. Donc, si elle se désagrège, si elle s'est désagrégée avant de passer, on ne va pas l'observer. Si elle se désagrège après, on l'observe qu'au moment où elle passe devant l'étoile. Donc on ne peut pas observer un changement de la nature de l'objet au cours du temps. En revanche, il y a un truc très intéressant, je n'ai pas eu le temps de détailler, mais dans les courbes de lumière, entre autres celles de Beta Pictoris, Lucie Crow, justement l'étudiant de l'école des mines qui avait fait les premières analyses, a montré que ces courbes étaient mieux expliquées si on faisait l'hypothèse qu'il n'y avait pas un seul noyau cométaire, mais peut-être deux noyaux cométaires qui se suivent les uns derrière les autres et qui permettent d'expliquer la forme détaillée de ces courbes de lumière. Et donc on a des indications indirectes, mais des indications qu'il y a des fragmentations même au sein des noyaux et que les noyaux peuvent être non uniques, un peu multiples, comme on l'observe dans les comètes du système solaire. Peut-être vous avez vu les images de la Schumacher-Levy 9 qui, en 1994, est tombée sur Jupiter et on voyait tous les noyaux les uns derrière les autres d'une comète, issue d'une comète qui s'est fragmentée.
Et ben merci. Allez, une toute dernière question.
Bonsoir. A priori, je comprends donc que les trajectoires des comètes sont instables. Et donc, est-ce qu'on a une théorie sur la durée de vie d'une comète ? Et puis, question subsidiaire, est-ce que la Theia qui a percuté la Terre il y a quelques milliards d'années était une comète ou pouvait être une comète ?
Alors, pour votre dernière question, l'objet qui a percuté la Terre, probablement peut-être, qui a formé la Lune, arrachement d'une partie du noyau terrestre qui s'est accumulé pour former la Lune, tout au début de la vie du système solaire, cet objet devait être très très gros, plutôt de la taille de Mars. Hein. Donc c'est plutôt une petite planète qu'un objet cométaire, en fait. Hein. Et là, quand on a un objet comme la taille de Mars, même s'il y a des volatiles, ils sont maintenus dans l'atmosphère de la planète par la gravité de l'objet. D'accord ? En fait, on peut avoir une comète parce qu'il y a des volatiles, des glaces qui s'évaporent, et parce que la gravité n'est pas suffisante pour les maintenir dans une atmosphère, en fait. Hein. Et tous les corps intermédiaires, par exemple comme Pluton, il y a un peu d'évaporation et ça fait une exosphère. Donc c'est un peu les corps intermédiaires. Mais pour les gros objets comme Theia, vous appelez Theia, la taille de Mars, là, il n'y a pas d'objet cométaire. Après, sur l'évolution des orbites, en pratique, on a assez peu d'informations sur l'origine, par exemple, des orbites des comètes que l'on observe autour de Beta Pictoris, même si on connaît les propriétés de ces orbites grâce à la spectroscopie avec l'effet Doppler, on mesure la vitesse radiale, donc on peut remonter à des éléments de l'orbite. Mais en fait, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui les a mis sur ces orbites. Il y a des modèles, entre autres développés par Hervé Beust à Grenoble ou Alessandro Morbidelli à Nice. Ils sont des grands spécialistes de la dynamique et qui proposent des scénarios de comètes en orbite, en résonance avec une planète massive. Et ces résonances, ça veut dire que la comète, par exemple, il y a un scénario, la comète tourne, fait un tour autour de l'étoile quand la planète fait quatre tours autour de l'étoile, ou des choses comme ça. Donc des résonances qui font que ça met la comète sur une orbite très excentrique. Et après, vous posez la question de la durée de vie. Ça, c'est un sujet qui mérite encore d'être étudié, parce que justement, ces objets, comme ils s'évaporent, je le disais, ça fait des masses de fer, par exemple, extrêmement importantes, ont probablement des durées de vie assez courtes, mais il faut trouver des mécanismes qui les mettent sur des orbites elliptiques suffisamment rapidement pour qu'on puisse les observer avant qu'ils se soient épuisés, quoi, quelque sorte. Donc, il y a plein de questions autour de ces sujets, des orbites, qu'est-ce qui fait qu'elles sont sur ces orbites elliptiques, qui sont encore à l'heure d'aujourd'hui des sujets d'exploration, et peut-être si je reviens dans 10 ans, j'aurai plus de réponses à vous apporter.
Voilà, ben donc je vous propose d'arrêter ici pour ce soir. Il y a d'autres questions sur le chat, mais ben, je ne vais pas toutes les poser, mais il y a des remerciements pour cette conférence, donc ben, ça fait plaisir d'avoir ces remerciements, merci. Il y a plein de gens qui nous suivent de différents endroits en France, en Belgique, en Tunisie, au Brésil, voilà, on est...
Même en italien, donc j'ai des amis italiens que je salue chaleureusement.
Voilà, donc ben, ça fait plaisir. Pour la prochaine conférence, donc, ce sera le mois prochain, le 3 décembre, donc, présentée, je vous rappelle, par Paola Di Matteo, donc, sur les 100 ans de la découverte Hubble des galaxies extragalactiques, si je puis dire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Internet. Merci à vous tous d'être venus ici à l'IAP pour cette conférence. Et merci de nouveau à toi, Alain, pour cette conférence. Voilà. Merci, bonsoir.